Culture, Expo, Théâtre, Livre, Littérature, Peinture, Expo, Culture,
Transversal.
Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Transversar, votre rendez-vous culturel sur Transistor. Bonjour Anne-Laure, bonjour Nina.
Bonjour Swan.
Vous avez été très nombreux à nous écouter la semaine dernière et à nous faire part de vos remarques et toute l'équipe de Transversar vous en remercie chaleureusement. Je vous rappelle que si vous souhaitez nous poser des questions ou nous proposer une idée de débat, vous pouvez nous écrire à transistor@hotmail.fr. Votre radio préférée est hebdomadaire, mais le spectacle, lui, est quotidien. Vous l'aurez compris, ou pas. C'est de la 10e Biennale de Lyon que nous allons parler aujourd'hui, consacrée au spectacle du quotidien, et qui se tient depuis le 16 septembre et ce jusqu'au 3 janvier 2010. Vous aurez la chance d'entendre tout d'abord une interview inédite de Hohanju, le commissaire de cette Biennale, réalisée par Anne-Laure et Nina, où vous découvrirez les aspirations et les attentes d'un critique d'art hors du commun. Ensuite, la rubrique Focus sera l'occasion pour notre invité, Raphaël Delarge, de nous donner son point de vue sur des œuvres qui l'auront particulièrement marqué. Enfin, vous retrouverez bien sûr la Cisaine lyonnaise, votre agenda culturel de la semaine. Et tout de suite, pour débuter cette émission consacrée à la Biennale, je laisse la parole à mes collègues. Alors, comment va Hohanju ?
Bah écoute, Swan, très bien, à ce qu'on a pu en voir. Alors d'abord, bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui un seul homme, et pourtant, à lire son histoire et le nombre de choses qu'il a réalisées, on a l'impression qu'il faudrait deux, voire trois vies pour en faire autant. Franco-chinois, installé à San Francisco, il est à la fois critique d'art, comme l'a dit Swan, et commissaire d'expo. Il a déjà été associé, entre bien d'autres, aux biennales de Venise, d'Istanbul, de Tirana, de Shanghai. Et cet homme est donc Hohanju. Nommé commissaire de la Biennale de Lyon 2009 après que la commissaire initialement prévue a renoncé à l'entreprise 6 mois seulement avant l'ouverture. Cette biennale, Hohanju a décidé de la placer sous le signe du spectacle du quotidien, moyen en quelque sorte de faire se rencontrer ces entités en apparence opposées que sont l'art et le banal, le spectacle et l'anodin. Et pour savoir si l'alchimie a réussi, nous vous invitons à vous rendre à cette biennale. Mais d'abord, la parole est au chef d'orchestre de la biennale, Monsieur Hohanju, que nous avons rencontré à l'occasion d'une conférence donnée par lui le 2 décembre au Musée d'art contemporain de Lyon. Bonjour Monsieur Hohanju. Vous êtes le commissaire de la Biennale 2009 de Lyon. Évidemment, une biennale qu'on introduit toujours dans les journaux comme une biennale un peu particulière, puisque on répète que vous avez eu à peine plus de 6 mois pour l'organiser. Est-ce que cela a été pour vous un obstacle, avec éventuellement une frustration du court terme, ou bien au contraire, finalement, un défi qui aurait aiguisé votre créativité ?
Je dirais, en fait, il y a les deux. Et donc, pour moi, du fait qu'il y a 6 mois, 5 mois, 2 mois ou 1 an, 3 ans, ça change, mais ça ne change pas le fond. Le fond, c'est en fait comment à chaque fois on arrive d'avoir un projet, je dirais, créatif, en même temps juste. La Biennale de Lyon a déjà connu une histoire très très importante, assez réussie, et qui devient une sorte d'établissement que tout le monde respectait, tout le monde a certains attentes. Donc ce n'est pas facile d'avoir des choses qui sont, soi-disant, nouveaux, frais, etc. Donc c'est là que, pour moi, comment me trouver dans cette négociation entre un établissement et la possibilité d'aller en dehors de ça, au-delà de ça.
Vous disiez justement que la Biennale de Lyon a toujours, pour le moment, été une réussite. Est-ce qu'il y aurait pour vous une particularité de la Biennale de Lyon ?
C'est une biennale qui a toujours été conçue par les auteurs, soi-disant, les commissaires. Donc à chaque fois, c'est un commissaire ou un groupe de commissaires qui fait le projet. Donc il y a une sorte de continuité dans cette logique. En même temps, à chaque fois, c'est très, très différent, très varié. Donc, c'est là qui fait, qui a rendu cette biennale très riche, très complexe. Mais en même temps, aussi, c'est une biennale qui se trouve au sein de l'Europe, qui est avantage et en même temps désavantage. Parce que les biennales contemporaines se trouvent essentiellement en dehors de l'Occident. aujourd'hui on appelle, il a une culture de biennale. Cette culture-là ne vient pas de l'Europe, en fait, ne vient pas des États-Unis, mais vient de pays comme Cuba, comme la Turquie, comme la Chine, le Japon, la Corée, etc. Ce dynamisme, en fait, est développé comme une partie de réponse à la puissance d'un modèle occidental. Aussi, c'est une partie de processus de globalisation aujourd'hui. Comment, en fait, les pays ou des nations ou des régions où il n'avait pas la même infrastructure, comme des musées, comme des galeries, le marché en Occident, répondent avec une solution extrêmement dynamique et intéressante. Et surtout, ça donne une sorte de nouveau terrain pour la créativité. Et c'est là que on a trouvé en fait une autre culture de production, notre culture de perception qui peut nous permettre d'aller au-delà des limites des musées, des galeries. Donc c'est là que je trouve que Lyon, en tant qu'une des premières biennales au sein de l'Europe, est issue d'une espèce de réponse à cette nouvelle émergence de situation.
Est-ce que ces particularités ont influencé en fait votre projet pour cette biennale?
Effectivement, quand j'ai fait n'importe quelle biennale ou exposition, j'ai toujours essayé de regarder un côté comment l'art contemporain fonctionne spécifiquement pour un contexte. Pour la biennale de Lyon, j'ai effectivement pensé à d'abord deux choses. C'est une biennale qui est bien établie, c'est la 10e édition. Mais effectivement, par définition, c'est le spectacle. Et en même temps, quel spectacle? Donc, effectivement, j'ai tout de suite regardé, référé à la tradition intellectuelle à la française, à partir de la génération de situationnistes, Guy Debord, et aussi Michel de Certeau, Henri Lefebvre, etc. etc. Et comment cette tradition-là, en fait, non pas seulement a donné un cadre de critique française, aussi a une signification très importante au niveau mondial, je dirais. Les gens comme Guy Debord, comme de Certeau, etc., sont les grandes figures intellectuelles qui ont une influence sur la nouvelle génération de penseurs. J'ai essayé de ne pas me limiter dans ces traditions-là, aussi d'introduire les nouvelles pensées autour de toutes ces problématiques qui s'inscrivent dans le changement de mainstream.
Justement, donc, vous avez analyser le fait que le concept de biennale était comme un moyen de sortir de l'institution muséale. Et cette biennale, intitulée « Le spectacle du quotidien », comme pour être plus fidèle à son titre, s'étend précisément hors des murs de l'institution muséale pour s'exposer jusque dans les espaces les plus quotidiens. Et en fait, on s'aperçoit que dès 1992, vous avez organisé avec Evelyne Joanneau rencontre dans un couloir où des artistes venaient s'exposer précisément chez vous, dans votre propre logement. Et donc, d'où vient chez vous ce souci qui semble constant de déborder toujours l'espace muséal pour inscrire l'art dans les espaces usuels?
Je pense que la question, en fait, la question de l'espace public, quelque chose d'essentiel de notre temps. Je pense que c'est le moment où il faut vraiment poser des questions sur ça. Et d'ailleurs, ce n'est pas que des gens comme nous, il y a énormément d'autres gens, non pas seulement des intellectuels, aussi des activistes, qui essayent de justement apporter d'autres possibilités de refaire la société comme l'espace de communauté. En résumant tout ça, je crois que c'est vrai qu'on a fait ces petits projets qui a duré un an dans notre petit appartement à Paris il y a, c'était quoi, 93. En fait, on commençait à se questionner qui est un artiste à partir de l'espace privé pour le transformer en quelque chose qui est auxile entre le public et et l'intime, avec une possibilité de transformer l'intérieur à l'extérieur et l'extérieur, ramener l'extérieur à l'intérieur. Donc tout ça, en fait, ça devient peut-être une espèce de manifesta politique.
Bah, justement, ce qu'on voulait également vous demander, c'est est-ce qu'on pourrait aussi voir, vous avez parlé donc de manifeste politique, est-ce qu'on pourrait voir une dimension militante dans le choix du titre Le spectacle du quotidien, avec comme un désir de montrer qu'un art contemporain qu'on accuse souvent quand même d'être élitiste, d'être abscon, serait en fait et est en fait vraiment proche de la réalité des gens?
Je pense que la question n'est pas tout simplement, encore une fois, de séparer, soi-disant, l'élitisme, le populaire. En fait, dans l'élitisme, dans le populaire, on a toujours la possibilité de changer les catégories, de déconstruire les catégories établies pour faire sortir des choses les plus intéressantes, les plus significatives. Donc, quand on est élitiste, ça ne veut pas dire qu'on est mieux que les autres. Si on garde l'élitisme comme une sorte d'excuse pour ne pas changer, ne pas confronter avec la réalité du monde, et aussi ne pas confronter avec des possibilités d'imaginer certaines utopies. Donc ça devient une sorte d'excuse pour être feignant. Ce que j'aimerais bien faire, c'est de dire, entre ces deux mots séparés, en fait, il y a une possibilité et aussi une nécessité urgente de créer un espace commun dans lequel on peut regarder comment une partie de la société continue à chercher l'impossible.
Il y a aussi quelque chose d'autre qu'on voulait vous demander, c'était par rapport au choix des artistes. Donc, quand on est commissaire d'une biennale, qu'on a 6 mois pour l'organiser, comment s'est opéré votre choix?
C'est le résultat de dialogue constant avec les artistes. Donc effectivement, quand j'ai pensé à ça, ce n'est pas un sujet qui tombe du ciel, c'est vraiment une sorte de résumé de mes connaissances, mes savoirs, par rapport à ce qu'ils font les artistes. Donc finalement, c'est les artistes qui me donnent l'inspiration.
On a remarqué l'importance des artistes asiatiques. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer la très grande fécondité artistique de ce continent, selon vous?
C'est quand même le nouveau centre de dynamisme dans la production économique, sociale, et géopolitique et culturelle. Il faut reconnaître que la culture contemporaine ou la modernité était toujours existante dans beaucoup de parties du monde, qui n'était pas articulée, qui n'était pas reconnue dans le discours dominant en Occident. En fait, quand on imagine des années 20 à Tokyo, des années 30 à Shanghai, les années 50 au Brésil, les années 30 au Mexique, etc., tous ces endroits-là, ce sont des endroits où on produisait des choses extrêmement développées, avant-garde, etc. Mais surtout, les derniers 20 ans en Asie, avec le boom économique, et aussi il y a une immense transformation sociale. Et c'est grâce à cette dynamique que les artistes sont pratiquement jetés dans la grande vague. Les meilleurs artistes souvent viennent de certains moments historiques, comme on a connu dans le passé ici. Aujourd'hui, on est un peu dans la fatigue, la grande fatigue.
Est-ce que pour vous, il y a encore possibilité de renouvellement en absolument. Europe?
Absolument, absolument, parce qu'on est en train d'essayer d'amener un peu de stimulation, des choses qui nous dérangent, pour qu'on puisse continuer. Voilà, donc effectivement, je suis assez optimiste par rapport à ça.
Et puis alors, sans doute, pour terminer, quel serait, si on vous demandait comme ça, directement, un événement, une anecdote, un petit rien du quotidien que vous retiendrez de cette aventure, la première chose qui vous vient?
Moi, je dirais que du fait que j'ai invité Laura Gaines avec les sans-papiers, pour moi, c'est quelque chose que je peux être assez fier. J'espère que la signification peut être comprise.
juste merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps et toutes ces précieuses informations que je suis sûre que les auditeurs de Transversar seront ravis d'entendre.